Les côtés, ça va.
Ça a démarré en sixième par des petites choses. C'était des petites insultes, des petites brimades.
Bah, sale roue, tu pues. Les roues, on les brûle dans l'enfer. Et ton père, il a l'habit rouillé, quoi. C'était toute la journée. Tous les jours, en classe, à la sortie, dans les couloirs, à la cantine.
On lui mettait du sel, beaucoup de sel dans ses plats.
On lui mettait de l'eau. Ouais.
En cinquième, ça s'est calmé, parce qu'on avait fait, on avait pris des dispositions nécessaires.
Qu'il n'aille plus à la cantine.
Le mettre externe.
Voilà, de le mettre externe. Et puis aussi, le fait que j'aille le chercher le soir à 4h30 en sortant de l'école pour pas que ça se poursuive à l'extérieur du collège.
Et en quatrième, tout a recommencé dès la rentrée. Mais là, c'était beaucoup plus violent parce que c'était tout de suite les coups de poing, les coups. Et forcément, ils avaient grandi et c'était donc plus violent. Donc notamment une fois, il était dans les couloirs du collège. Il s'est fait attraper par cinq gamins, dont un lui tenait les bras et il s'est pris un coup de genou dans la tempe. Il l'a emmené aux urgences ce soir-là. Et il avait bien un traumatisme crânien. Et puis deux semaines avant le geste de Mathéo, il y a eu encore un phénomène de violence dû à un vol de bonnet.
Oui, parce que Mathéo, en fait, il mettait un bonnet parce qu'il voulait se cacher tout simplement sa couleur de cheveux. Et forcément, on lui enlevait son bonnet et puis on le jetait.
Je crois que là, Mathéo était complètement... Il en avait vraiment marre. Lui a réagi violemment aussi et donc ça a dégénéré. Et comme c'était un plus grand que lui, c'est lui qui a pris le plus. 15 jours après, Mathéo a fait un geste...
Fatal. Il s'est pendu. À une barre traction que j'avais dans un couloir pour faire des tractions de temps en temps, ou de temps en temps il lui lançait des tractions aussi pour se tirer le dos et il y avait ce banc à côté de cette barre traction. Il a pris les foulards. Et là, il est parti, quoi. Ça a été... Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de son geste, quoi. Je ne sais pas, quoi.
Bonjour et bienvenue à notre émission L'écho des sapins. L'extrait que vous venez d'écouter vient du documentaire intitulé Souffre-douleur, il se manifeste, diffusé le 10 février 2015 sur France 2. Aujourd'hui, notre classe de 3e s'intéresse à un sujet qui fait beaucoup parler de lui et qui nous tient à cœur. N'est-ce pas, Noria ?
Oui, le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, 700 600 élèves français de l'école au lycée sont victimes de harcèlement. Mais le harcèlement, c'est quoi ? Quelle forme peut-il prendre ? Peut-on le prévenir ou le combattre ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons autour de la table des invités, élèves de la classe 3PFP, Mélina Madison.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un extrait musical qui n'a pas été choisi au hasard.
Et Emily, à 10 ans, était venue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Dites Emily, à 12 ans maintenant, à
Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.
Alors Mélina, vous avez choisi de nous faire écouter des témoignages réalisés par votre classe. En quoi cela consiste ?
On a cherché des exemples de témoignages pour montrer qu'il existe des types d'harcèlement. On a aussi donné la parole à des témoins et à des anciens harceleurs. Certains témoignages sont réels, ils sont extraits du site francetv.fr. Harcèlement, il se manifeste. Parfois, on les a plus ou moins imaginés.
Alors, écoutons ces témoignages.
Bonjour, je m'appelle Cynthia, je suis sur 3PFP. Tout a commencé un matin dans les couloirs avec un groupe de seconde qui me faisait des croche-pattes quand je m'en allais en cours. Le midi, dans le self, ils venaient tous vers moi avec une carafe d'eau. Il a renversé dans mon assiette, me glissé des mots méchants dans mes cahiers, déchiré mes feuilles de cours. Il me prenait toujours en photo lorsqu'il me croisait quelque part. Je me faisais taper tous les jours dans mon établissement. Un jour, je rentrais chez moi et ma mère a vu que j'avais un bleu sur le visage. Elle est allée voir le directeur et a demandé pourquoi j'avais des bleus sur le visage. Le directeur ne savait rien. Il a demandé à la classe s'il avait des problèmes. Personne n'a répondu. Le lendemain, je me faisais frapper toujours dessus. J'ai commencé à sécher les cours. Un jour, mes parents ont reçu mon bulletin et les professeurs ont marqué que j'allais plus en cours. Mes parents m'ont demandé pourquoi j'allais plus en cours. J'ai dit que je me faisais frapper par tout le monde. J'ai changé d'établissement. J'ai inventé ce témoignage, mais cela a pu déjà arriver autour de vous.
Bonjour, pendant mes années de maternelle et de primaire, tout allait bien, rien à signaler. Ensuite, pendant ma troisième, changement de collège où j'étais victime d'une sale rumeur par un jeune homme qui était dans ma classe. Je lui aurais fait des choses obscènes. Et du coup, n'étant pas toute jolie mais sûre de moi, je me suis retrouvée en position de victime. Tout le monde me détestait et m'insultait gratuitement. On me regardait mal, j'étais toute seule, isolée du reste du groupe, je n'avais plus aucune confiance. Je suis restée ensuite avec une bande de filles, toutes très jolies et sûres d'elles, et là, bim, ma confiance en a repris un coup, car elles me montraient clairement qu'elles étaient supérieures. J'ai un espèce de mal-être, j'ai coupé les ponts avec tout le monde.
Bonjour. J'ai été victime de harcèlement deux fois dans ma vie. La première fois, c'était au collège, de la 6e à la 4e. Pendant ces 3 ans, je me prenais des insultes. T'es une pute, bolos, un télo, tu pues, on va te niquer. Je me faisais insulter devant les surveillants, mais ils faisaient rien. Je disais à ma mère que je ne suis pas bien, j'ai mal à la tête. Je me forçais à aller au collège et pourtant j'adorais y aller. J'avais des bonnes notes. En fin de 4e, j'ai changé de ville et d'établissement, où j'ai fait ma 3e qui s'est très bien passée. Je suis à présent au lycée, en seconde. J'ai fait un CAP petite enfance pour devenir auxiliaire de puériculture. Je me disais, on n'est plus des gamines, donc aucune chance d'être harcelée. Mais je me trompais. 2 semaines après la rentrée, c'est arrivé les premières critiques, les premières insultes. Du genre, tu pues, t'es une bolosse, personne ne t'aime, t'es moche, t'es mal habillée. Je ne comprenais pas pourquoi, encore moi. Début octobre, j'ai commencé à me scarifier. Ma mère l'a découvert peu de temps après. Elle a prévenu le directeur, mais il n'a rien fait. Je suis allée plusieurs fois dans son bureau pour le prévenir, jusqu'au jour où ça en était trop pour moi. J'ai donc décidé de faire une tentative de suicide en prenant des médicaments. Par chance, j'en ai pas pris beaucoup, donc j'ai réussi à être sauvée. Au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas retourner dans ce lycée. Je ne me sens pas prête. Donc je prends mes cours par correspondance. Mes professeurs m'envoient mes cours. Ils sont très gentils. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à vos parents, vos proches. Ils pourront vous aider.
J'avais fait un selfie avec une amie, puis je l'avais mis sur Facebook. Une personne que je ne connaissais même pas m'a insultée de moche, de grosse. Après, ce sont d'autres personnes que je ne connaissais pas qui m'insultaient. Toutes les semaines passaient et plus je voyais encore des commentaires qui me déstabilisaient. Alors, j'essayais de les ignorer et de ne pas aller pendant une semaine sur Facebook. Mais la semaine suivante, je suis revenue et j'ai vu que j'avais environ 800 messages. Les semaines passées, tout continuait. J'en ai parlé avec mes parents, même si cela fut plus dur que ce que je pensais. Et ils m'ont conseillé de fermer mon Facebook et de ne plus regarder mon portable. J'ai décidé de suivre ce conseil, même si ça m'embêtait un peu. Surtout pour les amis qui sont loin. C'est le bazar. Faut tout reprendre. Mais j'ai bel et bien supprimé mon compte Facebook et j'en ai recréé un autre maintenant. Je fais attention aux amis de Facebook que je fréquente. Cette histoire n'est pas vraie, mais malheureusement, il arrive qu'elle se produise.
Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai décidé de réagir face au harcèlement. Moi-même, j'ai été témoin d'un harcèlement. Ma meilleure amie s'est faite harceler. Tout a commencé en troisième. C'était en septembre, l'année scolaire venait tout juste de commencer, mais des groupes s'étaient déjà formés. Moi et ma meilleure amie étions toutes les deux seules. Ma meilleure amie, Jade, a commencé par recevoir des messages sur Facebook. Ils lui ont envoyé des messages en disant qu'elle était moche, conne. Les filles de la classe l'ont prise en photo et l'ont postée sur Facebook. Après, d'autres élèves ont commenté la photo avec des commentaires méchants sur elle. Ils l'ont raquettée. Si elle ne donnait pas ce qu'ils voulaient, ils allaient la taper. Donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé d'agir. Je suis allée la voir, je lui ai dit d'en parler. Et que si elle n'en parlait pas, c'est moi qui allais en parler. Elle n'a pas voulu raconter tout ce qui lui a été fait. Alors, je suis allée chez elle. Et j'ai tout raconté à ses parents. Ils étaient au courant de rien. Mais ils avaient remarqué que depuis quelque temps, elle s'isolait. Ses parents ont donc appelé le collège, mais cela n'a pas suffi. Alors, ils ont porté plainte et quelques jours après, tout s'est arrêté. La vie a repris pour tout le monde. Ce témoignage a été inventé, mais cette histoire aurait pu être vraie.
Une semaine après la reprise des cours du mois de septembre, Freya, en classe de seconde, se faisait harceler par un groupe de filles. Elle ne disait rien à personne. Dans les couloirs, dans la cour pendant la pause, le groupe de filles se moquait d'elle, car elle était petite et rondelette. À chaque fois qu'elle passait auprès de ce groupe, elle entendait dire « Oh, elle est moche, petite et grosse !» Freya était ma meilleure amie. Depuis la primaire, on se disait tout. Un mardi matin, je me suis aperçue qu'elle se faisait suivre par ce groupe. Or, je suis allée la voir le soir après les cours pour lui demander ce qui se passait. Elle me répondit que j'avais dû rêver. Donc j'ai laissé tomber. Quelques semaines après, je l'ai vue, avec des blessures, des coups. Je suis donc allée la voir pour lui dire qu'elle pouvait tout me raconter. Mais pour elle, tout allait bien. C'est le lendemain matin que j'ai vu Freya se faire frapper par le groupe. Je n'étais pas toute seule à voir cette scène. Il y avait 5 ou 6 filles qui étaient là, mais qui baissaient les yeux. Moi, j'avais rien dit à personne. Je suis même pas allée voir Freya parce que j'avais peur. Peur d'avoir les filles derrière moi. Peur qu'elles me frappent, m'insultent de faillotte. Aujourd'hui, je regrette de n'avoir rien dit à personne, car Freya n'est plus là aujourd'hui pour témoigner. Témoigner, c'est ce que j'aurais dû faire. Cette histoire a été inventée, mais pas totalement.
Si les gens que j'ai traumatisés et bien souvent oubliés lisent ça, je vous présente mes excuses, ou peut-être que je vous demande pardon. J'espère que les mauvaises années de collège s'oublient vite. Les filles qui se sont fait harceler, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas coupables. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. Ça a eu la malchance de tomber sur vous, sans raison, juste parce qu'il y a trop d'ados comme moi, qui croient que pour être quelqu'un, il faut que les gens aient peur de vous. J'ai harcelé pour ne plus jamais être celle que l'on harcèle. Car dans la jungle des cours de récré, mieux vaut être au sommet de la chaîne alimentaire. C'est sans surprise que la plupart des harceleuses ont été victimes avant de devenir bourreaux. J'étais persuadée de ne rien faire de mal, à part exprimer mon opinion qui était « je n'aime pas cette fille ».
C'est très intéressant. Pourquoi parlez-vous de type de harcèlement ?
Parce qu'on peut repérer le harcèlement physique, moral ou le cyberharcèlement, même si souvent c'est mélangé.
Et les témoins ?
On a fait des recherches pour ensuite mettre en voie deux types de témoins. Les témoins passifs qui voient ce qui se passe mais ne font rien. Et les témoins actifs qui, eux, décident d'intervenir et de dénoncer.
Pour en savoir plus, Marine est allée à la rencontre de Madame Lavarenne et Madame Le Canu. Écoutons le résultat de cette interview après une courte pause musicale.
Yeah, ACRK, ACRK, yeah. Petite fille, les larmes aux yeux.
Alors moi je suis Madame Lavarenne, je suis conseillère principale d'éducation et ma mission est de faire en sorte que les élèves fassent leur scolarité dans les meilleures conditions possibles au sein de l'établissement.
Moi je suis Nicole Canu, je suis infirmière scolaire au lycée des Sapins depuis cette année. J'ai un rôle d'écoute beaucoup auprès des élèves. Je fais des soins quand c'est nécessaire, mais le rôle d'écoute prend trois quarts de mon temps environ.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Pouvez-vous nous en donner une définition ?
Alors, en fait, lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé, on reçoit des messages injurieux à répétition, en fait, c'est du harcèlement scolaire. La notion de répétition fait qu'on parle de harcèlement. Quand c'est un événement unique, on ne parle pas de harcèlement.
Et cette violence, elle peut se retrouver au sein de l'école comme en dehors. Et elle est faite par voilà, un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas ou ne sait pas se défendre.
Comment repère-t-on les élèves victimes de harcèlement? Quels sont les indicateurs?
Donc les indicateurs que l'on peut voir, c'est surtout un changement de comportement. Face aux autres, c'est-à-dire qu'on voit par exemple des élèves qui vont devenir par exemple violents verbalement ou tout au contraire qui vont s'isoler et donc du coup qui vont s'écarter de leurs camarades, etc. On peut également voir, moi, au sein de l'école, de l'établissement, de l'absentéisme, c'est-à-dire voilà, des élèves qui ne viennent plus à l'école et qui peuvent arriver jusqu'à un décrochage scolaire. Et une autre piste aussi, on va avoir souvent c'est les professeurs qui m'interpellent sur un baisse des résultats scolaires, de l'investissement dans le travail et un changement dans l'attitude en classe. Voilà.
Moi, d'un point de vue infirmier, en fait, on constate aussi un changement de comportement des élèves avec souvent une tristesse visible. Des pleurs, un élève qui s'isole mais qui a du mal à parler. On a souvent la possibilité de voir un enfant qui jusqu'à maintenant ne fumait pas se mettre à fumer ou consommer des psychotropes ou se mettre à boire. Et puis, ça nécessite de la part des soignants souvent un suivi psychologique ou médical. Parce que l'élève a du mal à s'en sortir tout seul une fois qu'il a été repéré.
Pensez-vous qu'on peut l'éviter?
Alors on peut essayer d'éviter le harcèlement. On sait très bien que tout établissement scolaire a un ou plusieurs élèves victimes de harcèlement au cours de l'année scolaire. Il faut qu'on soit très vigilant, que ce soit au niveau de l'équipe pédagogique ou au niveau des agents, etc., par rapport à ça. Il faut qu'on fasse de la prévention, c'est-à-dire que pour éviter le harcèlement, il faut que les élèves sachent ce que c'est que le harcèlement et puissent le repérer aussi. Il faut qu'on fasse des informations. Par exemple, les médias, quand ils font des informations sur le harcèlement, ça peut permettre aux témoins de se manifester, puisque ce qu'ils ne feraient pas s'ils n'étaient pas au courant. Et puis, les sensibiliser à tout ce que ça peut apporter en termes de nuisance au sein de l'établissement, au niveau des élèves.
Quel conseil donneriez-vous à un élève qui est harcelé par sa famille?
Alors, c'est surtout, personne ne doit subir cela. Donc, la première chose, c'est vraiment ne pas rester silencieux. C'est le principal conseil. C'est il faut absolument trouver un adulte de confiance à qui en parler. Donc, on a plusieurs pistes, que ce soit les parents, des professeurs avec qui on s'entend bien, l'infirmière, l'assistante sociale du collège ou du lycée, les CPE, les assistants d'éducation. Voilà, vraiment, c'est une personne avec laquelle la victime a le plus d'affinité. On peut également parler aux délégués de classe ou à des camarades avec qui on s'entend bien, et etc. Ou vraiment, si vous voyez vous êtes témoin et vous vous rendez compte que voilà, une élève qui va pas bien ou qui est victime d'un harcèlement ou de choses qui peuvent ressembler à un harcèlement, c'est venir ne pas être silencieux et venir en parler en tant que témoin aussi, absolument, et surtout ne jamais utiliser la violence parce que la violence elle va pas résoudre la situation. Voilà. Et après, il y a bien sûr des numéros verts qui existent, des services d'appel gratuits que l'on peut utiliser en recours quand il y a vraiment besoin. Voilà.
Des précisions très intéressantes, n'est-ce pas, Noria?
Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que ce thème touche beaucoup d'élèves et d'ailleurs, et pas seulement les troisièmes. Mylène, Léonie et Laura, élèves de seconde AS, ont participé au concours de plaidoirie dans le cadre des journées solidaires. Et devinez quel sujet ont-elles choisi ?
Le harcèlement.
Alors Mylène, Laura, Léonie, pourquoi vous avez choisi de travailler sur le thème du harcèlement scolaire ?
Car c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes aujourd'hui.
Ils n'osent pas tous en parler.
Puis aussi pour faire réagir les personnes qui subissent ça aux personnes concernées.
Et est-ce que vous étiez les seuls à avoir choisi ce thème ?
Non, on était au moins 4 à l'avoir choisi.
Et malheureusement, nous n'avons pas gagné.
Et avec quoi vous avez travaillé alors pour faire votre argumentaire, votre plaidoirie ? Vous êtes servi de quoi ?
À l'aide du bouquin « Marion, 13 ans pour toujours » qui a été écrit par Nora Fraisse et des documents que vous nous avez donnés.
Des déclarations, tout.
Et du coup, ce livre, c'est une histoire vraie. Enfin, elle raconte l'histoire de sa fille qui s'est suicidée à cause du harcèlement scolaire.
C'est ce qui vous a permis aussi de faire le choix du harcèlement. Le livre, une d'entre vous l'a lu ? Est-ce qu'une d'entre vous l'a lu ?
Oui, moi, c'était celui-là que j'avais. Et du coup, après, Mylène l'a lu aussi. Et puis, c'était un livre qui était quand même assez émouvant. Enfin, je veux dire, le sujet est quand même maintenant beaucoup exposé. Enfin, je veux dire, donc ça paraissait quand même important de faire une plaidoirie dessus.
Très bien. Et du coup, est-ce que c'était une bonne expérience ? Est-ce que vous en avez gardé une ?
Oh oui. Et puis on a pu écouter les plaidoiries des autres personnes.
Puis ça nous a mis aussi en confiance. Le stress et tout, ça nous a...
Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui a remporté
la plaidoirie ? Oui, Angeline.
Son thème, c'était le harcèlement aussi.
Oui, mais comme elle a travaillé plus de temps que nous, plus...
C'était un bon travail, mais vous avez bien travaillé quand même. Oui. Je vous remercie, Léonie, Laura et Mylène.
Merci.
Nous sommes tous Nora. Traitée de pute, de bolos, Marion, 13 ans, s'est suicidée. Nora Fraisse a 43 ans. Sa fille s'est suicidée en 2013 à l'âge de 13 ans. Parce qu'elle était harcelée à l'école. Après ce drame, Nora Fraisse a décidé de se battre. Pour toutes les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Cet extrait est celui de son livre, Marion, 13 ans pour toujours. Marion, ma fille, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans en te pendant un foulard dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone portable, pendu lui aussi, pour couper symboliquement la parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups d'insultes et de menaces. Le soir de ta mort, nous avions reçu un communiqué des gendarmes, nous demandons ton code de numéro. Ton portable était éteint et voulait l'analyser.
Sachez que toutes les plaidoiries sont en ligne sur le site de Zone d'Onde ou bien sur le blog du lycée, avec un clin d'œil à Ombeline qui l'a emporté avec pour titre « Douloureux cartable ». Et devinez quel thème elle avait choisi ? Notre émission s'achève sur ces conseils d'écoute, mais peut-être que Noria a des propositions de films à voir.
Oui, il y a notamment Respire de Mélanie Laurent, sorti en novembre 2014.
Alors terminons avec ça. Bande annonce, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt les Naïs.
En cours d'année, mademoiselle Perrin.
Sarah.
Donc je vous lâche en fille.
Et toi ?
Quoi, moi ?
Enfin, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure.
Paul, je te présente Sarah, une copine de classe.
Pour toi, je suis une copine de classe.
Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi.
Rien du tout, tu dis ce que tu veux.
Rires. vraiment méchante, en fait.
Tu vas pas te laisser emmerder, hein? Pas si impressionnante que ça, ta Sarah.
Charlie, qui t'a fait ça?
Tu m'entends?
Je te traite comme une merde et toi, rien.
Encore la petite victime. Qu'est-ce que je t'ai fait?
Depuis la sixième, et là je te reconnais plus.